les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Sarah Sepulcre.
On se perd facilement quand on tente de fixer la date de création de la télévision. Doit-on s'arrêter à la naissance de tel ou tel procédé, de la première transmission d'une image, des premières démonstrations publiques, du premier service régulier ou de la création de la première télévision officielle ? Pas évident. Mais franchement, tout ceci nous occupe assez peu dans le cadre de notre petite histoire des fictions. Quelques repères ne sont cependant peut-être pas inutiles. C'est déjà en 1907 que Arthur Korn, un Allemand, transmet pour la première fois une photographie de Berlin au bureau parisien de l'illustration. Cela prend plus d'une demi-heure. La course à la télévision est ouverte en France, en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis, mais c'est un Anglais, John Baird, qui réalise le premier ensemble émetteur-récepteur suffisamment perfectionné pour que soient effectuées des démonstrations convaincantes. En 1923, il crée son premier téléviseur. En 1925, il transmet l'image d'imparfaite silhouette. Le 27 janvier 1926, il fait une démonstration devant 40 membres de la Royal Institution. L'image d'une figure humaine, aisément reconnaissable, est transmise d'une pièce à l'autre. À partir du 30 septembre 1929, à Londres, un service régulier de télévision est instauré chaque jour de 11h à 11h30. Il reste encore à ajouter le son. Une première démonstration de télévision parlante a lieu le 25 avril 1932 en France, mais l'image n'est pas assez bonne. La réponse réside probablement dans le tube cathodique que l'Américain Vladimir Zorinkin travaille depuis 1923 et qu'il présente en France 10 ans plus tard. Le vendredi 26 avril 1935 a lieu la première émission officielle de la télévision française. Jusque-là, les normes de l'image définies en nombre de lignes et longueurs d'onde n'étaient pas fixées. Avec la naissance de ces émissions officielles régulières, l'industrie peut commencer à produire des appareils récepteurs. Je vous passe plusieurs épisodes, le choix de la transmission par onde ou par câble, le choix pour des émetteurs privés ou publics. Il faudra attendre la fin des années 40 pour trouver des normes techniques acceptables et à coût suffisamment bas pour que le public puisse participer. En 1938, la technique permet de voir avec netteté les personnages et les monuments. Le décorateur Huard a étudié des décors adaptés à la sensibilité particulière de la caméra électronique. Alors la dramaturgie, la comédie, bref la fiction, fait son entrée en télévision. Il s'agit de courtes comédies, d'évocations d'épisodes historiques, de féeries, parfois entrecoupées de music-halls. Le visage de la Marseillaise est diffusé cette année-là. Il s'agit d'une pièce écrite spécialement pour la télévision, ce qu'on appellera plus tard une dramatique. Le développement de la télévision est interrompu par la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands créent Télé Paris, mais peu de changements interviennent réellement. Aux États-Unis, l'évolution se produit dans le même laps de temps. En 1928, un service de programme de télévision est diffusé à New York. On y voit des hommes qui parlent, qui rient et qui fument. Il s'agit du résultat des expériences du docteur Ernst Alexanderson qui travaille pour la General Electric. Et oui, même les balbutiements de la télévision américaine sont privés et non publics. Le 11 septembre 1928, la première dramatique, les Américains disent Television Drama, est programmée. Elle est diffusée simultanément à la radio et en télévision et procure donc à la fois l'image et le son. The Queen Messenger de Hartley Manners dure 40 minutes. C'est un mélodrame d'espionnage choisi parce qu'il mettait en scène seulement deux personnages, un officier et une espionne. Les répétitions commencèrent à 4h du matin pour synchroniser la voix et les images de trois caméras fixes. La pièce était à l'antenne à 13h30. Dans l'immédiate après-guerre, la télévision amorce un nouveau départ. On fait des recherches pour améliorer la zone de couverture. On commence à produire des récepteurs plus abordables. Jacques Armand est désigné en tant que premier directeur des programmes. Il doit mettre en place des émissions dignes de ce nom. Le premier journal télévisé est diffusé en 1949. La télévision française quitte peu à peu sa préhistoire. Les années 50 seront celles des pionniers.
Les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries.
Les années 50 sont celles des pionniers, avons-nous dit à la fin de la chronique précédente qui présentait la création de la télévision. En 1950, près de 3800 récepteurs de télévision sont répandus en France. C'est peu, mais il ne faut pas oublier que le réseau de relais qui permettra une diffusion nationale n'existe pas encore. Pourtant, les fictions sérielles font déjà leur apparition sur écran. Pendant l'été 1950, Claude Barma utilise les studios désertés pour tourner l'agence Nostradamus. Le tout premier feuilleton de la télévision française compte 10 épisodes. Il a été écrit par Jean-Luc, les dialogues sont de Pierre Dumayet. Il sera diffusé dès le 9 octobre 1950. Claude Barma le tourne sur support film, le 16 mm permet en effet l'enregistrement, la diffusion en déféré et la rediffusion des œuvres. L'agence Nostradamus est la première concrétisation d'une volonté de Jean-Luc, alors directeur de la télévision française, développer une production cinématographique propre à la télévision. Même constat pour Jacques Baudou et Jean-Jacques Schleret, selon qui les directeurs de programme s'étaient rendus compte rapidement que le public pour qui la télévision était le cinéma à domicile voulait surtout voir de la fiction. Très vite, les canons de l'écriture sérielle se mettent en place. En 1954, Charles X. Braya, auteur dramatique, journaliste, romancier et scénariste, écrit la première série à héros récurrents. Il s'agit de l'inspecteur Grégoire, incarné par Olivier Husneau. Malheureusement, aucun titre général n'unifie la série. Elle change de titre à chaque épisode et est donc assez difficile à tracer. Vous aurez noté en passant que ces innovations apparaissent principalement dans des policiers. La production culte par excellence de cette décennie est elle aussi policière. Il s'agit des 5 dernières minutes de Claude Lourcet. La série est inspirée de jeux radiophoniques. Une enquête criminelle est menée par l'inspecteur Bourrel, incarné par Raymond Souplex. La solution est fournie par un indice visuel. Deux candidats suivent l'intrigue sur le plateau. Quand l'inspecteur s'exclame « Bon sang, mais c'est bien sûr », ils doivent donner la solution. Le premier épisode, La clé de l'énigme, est diffusé le 1er janvier 1958 à 20h15. Elle est produite en direct, un exploit d'autant que les candidats avaient initialement le droit de faire rejouer certaines parties. Les pépins sont nombreux, oubli du texte, objets parfois importants, laissés en coulisses, les comédiens qui n'ont pas le temps de changer de costume entre deux scènes. Dès le 6e épisode, des inserts filmés précédemment permettent une plus grande liberté. La production décide également de supprimer la possibilité de rejouer des scènes avant de tout bonnement supprimer les candidats eux-mêmes. L'émission qui hésite entre jeu et série s'oriente totalement vers la fiction. Plus qu'un culte, la série est un dinosaure de la télévision française. Elle a duré plus de 30 ans. Les derniers épisodes seront diffusés dans les années 90. Aux États-Unis également, les règles sont fixées très rapidement, en début de décennie. I Love Lucy sur CBS en 1951 pose les canons de la sitcom. Lucy est mariée à un chef d'orchestre et ne rêve que d'une chose, devenir une star et cesser d'être une ménagère. 3 caméras sont utilisées au tournage afin de produire un montage plus dynamique. Côté dramatique, Dragnet en 1952 sur NBC ouvre la voie aux policiers. La série se veut documentaire, elle est inspirée des enquêtes de la police de Los Angeles. Flic et comique ouvrent la marche, d'autres séries de personnages s'empareront vite du petit écran. Gunsmoke, Bonanza ouvre l'ère du western. Denis Lamalie, Zorro, Lassie, Les Petites Canailles ciblent les enfants. L'Homme Invisible inaugure la science-fiction, Perry Mason le judiciaire, Haine et Passion le soap-opéra. En 10 ans, tous les genres sont visités, la décennie se referme sur la splendide 4e dimension de Rod Serling, l'anthologie est encore programmée aujourd'hui, elle se laisse encore regarder, preuve qu'en 10 ans, la télévision a atteint un niveau de production tout à fait honorable tant sur le fond que sur la forme. 3800 récepteurs de télévision répandus sur le territoire français, avons-nous dit plus tôt, en 6 ans, on atteint presque le demi-million. En 1956, 442 433 postes ont trouvé acquéreurs. Le boom se produit dans les 4 dernières années de la décennie. En 1959, 1 406 000 foyers sont équipés, soit presque 1 million de plus. On est loin de l'omniprésence actuelle et pourtant on peut lire sur le site de l'Office national de filmographie du Canada, section historique, que l'avènement de la télévision effraye déjà plusieurs cinéastes. Et en 1955, la télévision bouleverse l'équilibre des productions. Près de la moitié des films de l'ONF est destinée au petit écran. En 1954, les Américains lancent le premier magnétoscope professionnel sur le marché. En mars 1956, la RTF présente différents systèmes de télévision en couleur étudiés en France sur base de ce qui s'exploite déjà aux États-Unis et s'étudie en Angleterre et aux Pays-Bas. Ce ne sont que des débuts, les résultats des recherches sur les magnétoscopes et la couleur n'arriveront dans les salons que durant la décennie suivante, celle du pop, des starlettes et de la nouvelle vague.
Les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries.
Les Golden Years, cette décennie est probablement celle qui fait jaillir le plus d'images mentales, de clichés. Johnny Hallyday, Joe Dassin, Claude François, les Beatles, Jim Morrison, Andy Warhol. Les années 60 sont celles de la croissance économique. Le pouvoir d'achat du peuple augmente, la notion de loisir s'impose. On assiste donc à la naissance d'une culture de masse produite pour le plus grand nombre. On la taxe rapidement de culture populaire. Les années 60 sont aussi celles du triomphe de la jeunesse, une génération apparaît qui n'a pas connu la Seconde Guerre mondiale et qui veut s'amuser. Les adolescents ont leur argent, leurs loisirs, leur culture, leurs magazines, leurs émissions, leurs idoles. Les élites se rebiffent, la culture était alors consommée en classe, le Times et les films d'auteur pour les bourgeois, les comics et les sentimentaux pour le peuple. La culture de masse mélange les classes, rend les repères obsolètes. La télévision joue un rôle fondamental dans la naissance et l'expansion de cette culture de masse. En 1967, 97% du territoire reçoit la première chaîne et 70% la deuxième. La démocratisation des prix fait entrer le récepteur dans de plus en plus de foyers, tant bourgeois que populaires. Déjà, la télévision occupe l'essentiel du temps libre, 30% des loisirs. Normal puisque les téléspectateurs ont plus de choix. En avril 1964 est née la deuxième chaîne française. Par comparaison, les Anglais ont 2 chaînes depuis 10 ans déjà. Conséquence logique, plus d'heures de diffusion et augmentation du nombre de programmes. Généralement, on se tourne vers les fictions sérielles. De nouvelles formes apparaissent comme les feuilletons découpés en tranches de 13 ou 26 minutes diffusées avant les journaux télévisés. Un gars, une fille n'a donc rien inventé. Rocambole ou l'abonné de la ligne U sont de ceux-là. En 1969 déjà, on commencera à parler publiquement d'une troisième chaîne française. Ouverte en 1961 par le premier homme dans l'espace et refermée sur la mission Apollo 11, la décennie sera aussi celle de l'avancée technologique de la télévision. En février 1960, les retransmissions de l'Orchestre National et du match de rugby Toulouse-Vichy ont ceci de commun, elles sont enregistrées, on dit alors empexées. Le magnétoscope inventé par la société américaine Ampex, d'où l'adjectif, est réellement utilisable depuis 1956, industrialisé en 57 et importé en Europe en 58. La Mondovision fait ses débuts, les satellites de communication sont placés en orbite, le célèbre Telstar notamment. Les régies sont désormais équipées d'ordinateurs. Depuis 1962, les Britanniques peuvent lire le supplément du Sunday Times en couleur. Les années 60 sont yéyé, elles ne pouvaient être convenablement honorées que par l'apparition du spectre complet sur écran. Je vous passe les problèmes créés par les différents systèmes existants de par le monde, 625 ou 819 lignes, le PAL ou le SECAM, qui retarderont l'arrivée de la couleur, et pourtant le 25 août en Allemagne, le 1er octobre en France marque ses débuts officiels. Pour beaucoup pourtant, la soirée concoctée pour l'occasion ne sera visible qu'en noir et blanc, les vieux récepteurs sont toujours en place. Pour une fois, les Américains ne sont pas sensiblement en avance. Si le noir et le blanc sied très bien à la famille Adams, évidemment, ou aux séries hors temps comme Zorro ou La Quatrième Dimension, la couleur est un plus pour bon nombre d'autres séries. C'est lors de sa troisième saison, en 66-67, que Ma Sorcière Bien-Aimée passe à la couleur. Certains disent que la série en deviendra encore plus burlesque. La couleur sera partie intégrante de l'image pop des Mystères de l'Ouest ou de Batman. Max la Menace, Daktari, Star Trek, Mission Impossible sont toutes entières en couleur. On mesure l'importance du changement et son apport dans l'écriture visuelle. L'Angleterre joue un rôle fondamental dans cette décennie. David Bowie et le Swinging London, Marie Quant et la mini-jupe. Elle fait jeu égal avec les États-Unis. Destination Danger, Le Prisonnier, Doctor Who, Le Saint, Chapeau Melon et Bottes de Cuir, L'Autobus à Impérial. C'est l'âge d'or de leur télévision. Belphégor, Jeannick Aimé, Belle et Sébastien, Thierry Lafronde, Bob Moran, Le Temps des Copains, Les Shadocks, Arsène Lupin, Colombo, Le Frelon Vert, Le Fugitif, Hawaii Police d'État, Manix, Tarzan, Flipper le Dauphin, Perdu dans l'espace, Peyton Place, vous savez quoi? C'est impossible de les citer tous. À la fin de la décennie, la jeunesse embrase mai 68 en France. Des lois en faveur de l'homosexualité, du divorce, de la contraception, de l'avortement sont votées en Angleterre. Les Beatles se séparent, les Noirs revendiquent leurs droits, les assassinats de Martin Luther King et John Kennedy aux États-Unis, les années psychédéliques pointent le bout de leur nez, accompagnées des traumatismes liés à la guerre du Vietnam qui marqueront l'imaginaire.
Les années 70 seront celles du combat de l'ancien contre le nouveau. Aux États-Unis, cela se traduit par un simple dilemme, aborder ou non les sujets qui fâchent. Mais je veux dire les sujets qui fâchent vraiment. La décennie s'ouvre sur All in the Family, une série inédite en Europe. Archie Bunker est un Américain moyen furax. Il doit travailler avec une équipe multiethnique. Or Archie est raciste. Et pour ne rien arranger, sa fille Gloria est une progressiste de gauche mariée avec un Polonais. Norman Lear, le producteur, a voulu une série provocatrice. Elle durera 12 ans, durant lesquels Archie devient plus modéré. All in the Family donnera même naissance à un spin-off, les Jefferson, aussi inédit en Europe et qui se paye le luxe d'aller encore plus loin. Les héros sont noirs et les voisins de Archie en fait qui ont fait fortune et déménagent pour une banlieue bourgeoise de New York. Les voisins des Jefferson seront le premier couple mixte de la télévision américaine. L'autre sujet scabreux, ce sont les femmes. On cite souvent les drôles de dames, pourtant les dramatiques, à cette seule exception faite, sont toujours dominées par les hommes. Non, ce sont au sein des sitcoms que les femmes s'émancipent. Le Mary Tyler Moore Show débute en 1970 et met en scène une célibataire. Le projet initial prévoyait une femme divorcée, mais ça c'est définitivement too much pour l'époque. Ce qui change par rapport aux autres fictions, c'est que Mary n'est pas filmée chez elle. La série se déroule principalement sur son lieu de travail. La fée du logis souriante est démodée. Mais c'est de nouveau Norman Lear qui prend une longueur d'avance avec Maude. Maude a la quarantaine bien sonnée, mais elle n'a pas des idées rétrogrades. Elle se lance dans la politique, elle se fait faire un lifting, subit un avortement, doit faire face à la ménopause et à l'impuissance de son mari. Et nous ne sommes alors qu'en 1972. Le seul tabou qu'elle ne brise pas, c'est l'homosexualité. La France ne diffuse pas la plupart des séries que je viens d'évoquer, mais elle ne sera pas à l'abri pour autant. La télévision française aussi change, jusque dans ses structures d'ailleurs, puisque Valéry Giscard d'Estaing s'attaque en 1974 au démantèlement de l'ORTF. TF1, Antenne 2 et France Région 3 naissent des cendres des premières, deuxième et troisième chaînes. Cette même année, les Européens apprennent qu'on peut éduquer autrement, je veux dire en amusant. Et quoi de plus différent, ou amusant, c'est selon qu'un dinosaure jaune. Et oui, le 16 septembre 1974, Casimir débarque à la télévision. Il est accompagné des marionnettes de Sesame Street. Christophe Izard, le créateur de L'île aux enfants, a fait ses gammes à New York dans l'équipe du Children Television Workshop de Jim Henson, le papa du Muppet Show. Dans la fiction pour plus grand, c'est dans son genre favori que la France sera touchée. Les dirigeants de TF1 sont en mal de policiers, Pierre Sabag est passé sur Antenne 2 avec les enquêtes du commissaire Maigret et les 5 dernières minutes sous le bras. Claude Boissol, chargé de créer le nouveau succès, invente un commissaire plus jeune et plus moderne que ce que la télévision française a l'habitude de produire. Si le premier épisode s'intitule « L'enquête est ouverte », le deuxième s'appellera « Le commissaire Moulin ». Attention, on est loin de l'image que l'on a maintenant de Moulin. Il porte encore costume et cravate, mais une production américaine qui vient de débarquer fait de l'œil à Yves Régnier et l'acteur insiste pour faire évoluer son personnage vers le jeans, les baskets et les cheveux longs. La production américaine en question, c'est Starsky & Hutch. Les enquêtes psychologiques, les interrogatoires et les dénouements en huis clos du policier classique seront bientôt obsolètes. Les fusillades, l'action, l'argot et la violence deviendront bientôt la norme. En attendant, la télévision hésite entre tradition et modernité. Malgré leur qualité indéniable, des séries comme Les Brigades du Tigre, Les Fargeaux, Prince Noir, Racine, Amicalement Vôtre sont du côté de la tradition. Médecins de nuit, Holocaust, MASH, Drôle de Dame, Starsky et Hutch tendent irrésistiblement vers la nouveauté. Mais un phénomène neuf et qui sera massif dans les années 80 s'infiltre déjà dans les grilles de programme. Il prend le visage de Gundizer. En mélangeant les syllabes de Goldfinger et Mandrake, les Français le rebaptisent Goldorak. Le succès se traduit dans les chiffres d'audience, mais aussi dans les chiffres de vente. Les produits dérivés inondent le marché. L'ère de la Japanimation s'inaugure. Mais la décennie se referme sur la nostalgie et le souvenir guimauve des années 50 et 60, avec Richie, Fonzie et leurs jours heureux. Les années 80 commenceront sur une question intenable : qui a tiré sur JR ?
Les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries.
Soap opéra, sitcom et révolution dans l'ombre, voilà en quelques mots le portrait des années 80. Elles paraissent insignifiantes avec leur lot de séries anodines comme L'Agence Touriste, Madame est servie ou Miami Vice, c'est parce qu'on ne les a pas bien regardées. Les années 80 sont incommensurablement celles de Dallas. Le feuilleton existe depuis 1978 mais ne débarque qu'en 81 de ce côté-ci de l'Atlantique. À l'image de JR, la série est celle qu'on aime détester, mais le programme est un succès phénoménal. Larry Hagman, qui incarne le détestable JR, prétendait recevoir 3000 lettres par semaine, majoritairement des déclarations d'amour. Dallas sera aussi à la base de copies plus ou moins avouées, plus ou moins chanceuses, dynastie en tête. La France n'est pas en reste. TF1 diffuse dès janvier 85 Château Vallon. La fiction française est plus sage que Dallas, il n'y a pas d'alcool, pas de sexe, mais les amours impossibles et luttes entre les clans Berg et Kovalik. Des intrigues politiques passionnent les foules. L'aventure se termine avec l'accident de voiture de l'actrice Chantal Nobel qui mettra longtemps à se rétablir. Dallas ouvre l'ère du soap-opéra roi, du feuilleton tellement fleuve qu'il semble avoir toujours été là. Avec Dallas, les Européens découvrent aussi qu'ils peuvent être complètement dépendants d'une fiction. Et oui, selon une enquête du Centre d'études d'opinion, les Français passent 18 heures par semaine devant leur poste. C'est la plus longue activité de loisir à laquelle ils se sont jamais consacrés. Une personne sur deux vérifie d'abord les programmes télé avant de choisir ce qu'elle fera de sa soirée. Il aura fallu à la télévision seulement 3 décennies pour devenir centrale dans la vie des êtres humains. La télévision peut donc largement étendre l'offre de ses programmes. Canal+ est créé le 4 novembre 84 et parvient à fidéliser un public malgré les difficultés techniques nombreuses au démarrage. La 5, puis la 6e et la 7e chaîne se mettent en place. TF1 est privatisé, TV5 fête ses 3 ans, sans compter que la télévision complète sa grille. Désormais, les chaînes diffusent aussi en journée et le matin, comme c'était le cas depuis longtemps aux États-Unis et au Japon. Les années 80 souffrent d'une mauvaise réputation. On en retient le plus souvent des fictions faciles comme Shérif et moi peur ou La croisière s'amuse. Des séries qui versent parfois dans un simplisme et un manichéisme édifiant. Peut-être un effet secondaire de la guerre froide. Les États-Unis sont maintenant dirigés par Reagan et il a besoin d'une Amérique traditionnaliste. Les sitcoms familiales fleurissent, Madame est servie, La fête à la maison, Alf. Il faudra attendre 1988 et Roseanne pour que la télévision filme des familles moins policées. La France n'est pas non plus originale, Maggie et Marc et Sophie sont créés à cette époque. Le vent de féminisme qui a soufflé sur les États-Unis la décennie précédente arrive en France, mais même les dames de la côte qui ont marqué les esprits ne relèvent pas franchement le niveau. Ceci dit, la production française peut parfois se révéler intéressante. Téléchat, une parodie du monde des journaux télévisés et de la vacuité des médias, fait son apparition en 83, simultanément en France et en Belgique. De son côté, Jean Chalopin parvient à rivaliser avec la vague des dessins animés japonais. Il est français et créateur à succès de Ulysse 31, des Mini-Pousses, de l'Inspecteur Gadget et des Bisounours. Jean Cosmoc et Julien Fontane, magistrat, qui s'inspire du travail des juges de la direction des affaires criminelles. En France, ils sont le dernier espoir des condamnés puisqu'ils mènent les enquêtes sur les recours en grâce. La série aborde des faits de société comme l'abrogation de la peine de mort,
Une affaire de pollution à la dioxine, la légitime défense, les réseaux de proxénètes, les prises d'otages, les bavures policières ou le terrorisme, elle dérange et est retirée de l'antenne en 87. Et il n'y a pas que ces quelques exemples qui sont intéressants. Les années 80 vont faire passer la fiction télé dans l'époque de la maturité. Dallas, tout le monde n'avait que ce mot à la bouche, mais dans l'ombre naissait Captain Furio de Steven Boschko et Michael Kozol. Les personnages sont innombrables et ne sont pas des saints. Les plans sont filmés à l'épaule, le montage saute d'une trame narrative à l'autre dans un rythme effréné. Les scénaristes mêlent séries et feuilletons. Les scénarios sont truffés d'humour noir et de provocations, toutes des nouveautés à l'époque. Les chiffres d'audience sont catastrophiques, mais les critiques sont spectaculaires. La série ne survivra à sa première saison que grâce à ça. Elle gagnera 8 Emmy Awards l'année suivante. Elles sont loin, les séries reaganiennes. À la suite de Boschko, on arrête de prendre les téléspectateurs pour des cons. Les années 90 créeront les fictions les plus intelligentes qu'on ait jamais vues à la télévision.
Les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries.
Avec Steven Boschko et Michael Kozol, la télévision passe dans l'ère de la fiction intelligente. Plusieurs séries osent la carte de la qualité au début des années 90. Twin Peaks, La Ville du Grand Secret, Homicide pour les dramas, Dream On, Seinfeld du côté des comédies ont toutes été créées dans les trois premières années de la décennie. Mais ont-elles réellement un impact ? Twin Peaks défraye la chronique mais est annulée faute d'audience. Dream On mis à part, les autres fictions ne sont pas les blockbusters de l'époque. Pourtant les chaînes persistent, les séries remportent un succès critique important et les programmateurs se rendent compte que ça redore leur blason. Et puis ces productions drainent le public qui intéresse les annonceurs. Le profil type, il a entre 25 et 30 ans, il est cadre, urbain, et est celui qui achète télévision, ordinateur et gadgets high-tech. L'audience téléfile est encore marginale, mais le verre est dans le fruit. 10 septembre 1993, Dana Scully entre dans le bureau de Fox Mulder. Cet événement est loin d'être anodin. Aux frontières du réel va récolter des chiffres d'audience astronomiques. C'est une histoire d'ovnis, d'enlèvement, de complot qui tombe à point nommé dans un monde post-guerre froide à la recherche d'un coupable au dysfonctionnement de la société. Le gouvernement semble tout indiquer, mais X-Files ne réjouit pas que les parano et ufologues à deux balles. La série est aussi mondialement louée pour la qualité de ses intrigues, des personnages et de l'image. On lit fréquemment que X-Files équivaut à un film de cinéma. La série est aussi à l'origine d'un phénomène neuf et sur lequel elle n'a aucune prise. C'est la rencontre entre l'Internet et les fans. Non seulement ils discutent pendant et après l'épisode hebdomadaire, mais s'approprient totalement la fiction, l'autopsiant, relevant ses moindres détails, alimentant les rumeurs, voire les scénaristes eux-mêmes. Désormais, les téléspectateurs ont une influence, limitée certes, mais réelle, sur ceux qui font les séries et ceux qui les diffusent, puisque les chiffres d'audience ou les critiques dans la presse, ce sont les internautes qui sauvent ou condamnent les fictions. En deux ans, la messe est dite. En effet, trois séries sont incontournables dans les 90s, elles voient tout le jour en 1993 et 1994. Aux frontières du réel est la première, Friends est la deuxième. Elle réhabilite complètement la sitcom qui était tombée dans un bavardage familial moralisateur dans la décennie précédente. Elle met aussi en évidence un fait de société, l'augmentation du nombre de personnes seules dans les grandes villes. En quelques épisodes, les célibataires deviennent des gens super cool qui s'amusent à longueur d'année. La manière de Friends marche tellement bien qu'il est bientôt impossible de penser une sitcom ou une comédie sans un groupe d'amis très proches dont on examine les déboires amoureux et la vie quotidienne. Les dessous de Veronica, Ally McBeal, Will and Grace, Coupling, plagie le moule avec plus ou moins de bonheur. La troisième série joue sur les mêmes éléments que les fictions de Boschko, un groupe de personnages qui sont à la fois des héros des temps modernes et des êtres humains remplis de failles, un métier emblématique, un quotidien qui se déroule devant les yeux du téléspectateur. Urgence a en plus ce je-ne-sais-quoi qui la rend unique et qui fait qu'avec les mêmes matériaux de départ, elle engendre un succès alors que Chicago Hope se vautre. Captain Furillo a fait aimer les flics, Urgence fera comprendre au public pourquoi elle poireaute parfois des heures dans la salle d'attente d'un hôpital. Les séries de la fin de siècle sont effectivement très réalistes. Aurait-elle la capacité de dire le réel mieux que le réel ? C'est ce que certains prétendent. Ce souci de vraisemblance annonce la télé-réalité qui deviendra majeure dans les années 2000. À L3, ces séries résument les courants qui traversent la télévision de la décennie. Elles ne sont évidemment pas les seules à occuper l'écran. On aurait pu citer Beverly Hills, Parker Lewis ne perd jamais, la franchise Star Trek, Lois and Clark, Babylon 5, La Via 5, Xena, Brooklyn Source ou First Wave. En France, après un inexplicable succès de Hélène et les garçons, et avec quelques années de retard, PJ, Police District, Meurtre en série, prouvent que les scénaristes francophones sont aussi capables du meilleur. Face à leur succès, face à leur qualité, difficile de continuer à dire que les feuilletons sont débiles. La presse prend plus de temps que les producteurs, que les fans, qu'Internet, que le Génération Série, mais elle finit quand même par célébrer le genre. Aux frontières du réel, c'est certain, a ouvert la brèche. Les people envahissent les couvertures et les critiques dithyrambiques les pages télé. Les années 2000, fortes de cet héritage, oseront carrément détrôner Hollywood.
Les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries.
Dans ma dernière chronique sur l'histoire de la télévision, je vous disais que les séries étaient maintenant prêtes à détrôner Hollywood. Et bizarrement, c'est à ce moment-là que Hollywood, justement, s'est emparé des fictions télé pour remplir les cinémas. Les adaptations se suivent et se ressemblent jusque maintenant. Aucune d'entre elles n'a pu convaincre. Le lieu de la création, c'est bel et bien la télévision. Et HBO, la chaîne câblée américaine, n'est pas étrangère à cette évolution. Créée dans les années 70, son slogan publicitaire clame « Ce n'est pas de la télé, c'est HBO ». Fin du siècle passé, c'est elle qui a lancé les hostilités avec des séries comme Sex and the City et Les Sopranos, des scènes sexuellement explicites, des corps nus à l'écran, un langage cru caractérise la première fiction, une vision des femmes aussi à laquelle la télévision américaine ne nous avait pas habitués. Les Sopranos sont dans la lignée des films de gangsters que Quentin Tarantino a réveillés, mais c'est totalement à contre-pied que la série se positionne. Le chef local, Tony Soprano, est coincé entre son métier, les traîtrises de ses subordonnés, sa femme et ses enfants adolescents. Alors, comme tout bon citoyen américain, il consulte. Il fallait oser aller à contre-courant du mythe lancé par la trilogie des parrains. Depuis, HBO ne s'est pas franchement calmé. Sans ligne de conduite, sans genre favori, sans personnage fétiche, elle tire un coup à gauche vers l'histoire, un coup à droite dans la fantaisie, un coup ailleurs et elle se joue des tabous de la mort avec Six Feet Under. HBO fait toujours un carton. La télévision, lieu de création, ce n'est en fait pas moi qui le dis, mais Joël Surnau, le co-créateur d'une série choc des années 2000. On sait déjà qu'à la télévision et au sein des fictions audiovisuelles en général, il y aura un avant 24 heures chrono et un après. La série n'est finalement pas si révolutionnaire en termes de scénario. Elle ne redéfinit pas les règles d'un genre comme les Sopranos l'ont fait par exemple, mais elle s'attaque au temps réel. Or ce temps réel, on en parle beaucoup sans qu'aucune fiction ait jamais réussi à le faire. On en aura calculé les minutes, les pauses pipi, le nombre d'heures de sommeil de Jack Bauer, le succès venu de ce tour de force annoncé des scénaristes. On a tous regardé en attendant le moment où ils allaient se planter, mais ils ont tenu le coup. Pourtant, le temps réel ne suffit pas à expliquer le plus qu'apporte cette série. Je crois que 24 heures chrono, c'est surtout une accélération, une complexification de la narration, une nouveauté esthétique que recherchaient les fans. Un peu comme on lit un nouveau roman juste pour le plaisir de la virtuosité. 24 heures chrono ne survivra probablement pas aux années, mais on retiendra qu'elle fut la première à prendre les téléspectateurs pour des amateurs d'exercices de style. Depuis, les innovations formelles, on ne s'en lasse plus. Boomtown a joué avec la focalisation et l'ordre de la narration. On suit la même enquête du point de vue de plusieurs personnages et parfois on revoit des scènes en flashback ou en flash-forward. Après s'être attaqué aux stéréotypes des genres, aux rôles traditionnels homme-femme, à l'esthétique visuelle, au temps, la télévision maintenant tente de briser le carcan narratif qui fait la nature même des séries télé, la sérialité. On les trouvait trop répétitives ou trop prévisibles. Les scénaristes sont devenus des spécialistes des rebondissements à grand spectacle. On développe une série et après quelques saisons, on renverse tout. Aux frontières du réel avait commencé, interchangeant les places selon l'humeur. Smoking Man était méchant, il devient gentil. Et la mythologie obsolète en l'espace de 50 minutes. Le caméléon ne révèle pas grand-chose, se laissant le luxe de distiller les informations choc. Buffy contre les vampires, de fiction pour ados, s'est transformée en série plus mature, passant des blagues, saupoudrées de naturel, à une héroïne morte, ressuscitée et écharpée vive. Alias, pour finir, décide, début de troisième saison, de faire carrément table rase du passé, remplaçant des agents doux par des agents triples traîtres et parfois trompés. Le tout servi avec un zeste d'ésotérisme. Bref, on casse les histoires qu'on avait développées. Quand on commence à regarder une série aujourd'hui, on ne sait pas si le héros sera toujours là dans trois épisodes, si les rôles seront toujours les mêmes et si le genre n'aura pas muté. Les repères ont disparu. Et on parlait il y a quelques lignes d'ésotérisme, les séries années 2000 ont aussi un goût de divin de plus en plus prononcé. Millennium, à la charnière du siècle, a subtilement joué avec l'idée de fin du monde qui a plané aussi sur le cinéma. Mais depuis, le bug n'a pas eu lieu, Mir ne s'est pas écrasé sur Paris et les quatre anges de l'apocalypse roupillent toujours. Alors on réinvente les dieux. Carnival Lay, par exemple, parle de bien, de mal, parle de Bible et d'élus. Buffy utilise le même vocabulaire. Alia se tourne vers les prophéties d'obscurs italiens qu'on n'a quand même pas osé appeler Nostradamus. Et je ne vous ferai pas l'affront de vous parler de Seth à la maison. Serions-nous tous en quête de vérité? Sauf qu'on veut maintenant nos 15 minutes de célébrité et donc l'élu, c'est nous, enfin quelqu'un comme nous. Buffy, alias Ben Hawkins, ne sont pas préparés. Ils ne sont ni mieux ni moins bien, pas particulièrement plus beaux, plus sportifs, plus forts que vous et moi. Finalement, on pourrait être eux. On pourrait même le rester malgré les incidents de parcours éventuels, à l'image de ce monk, faible, apeuré, prisonnier de lui-même qui reste cependant le plus fin limier de San Francisco. Côté européen, on est resté scotché sur les policiers. PJ a semble-t-il trouvé une vitesse de croisière moins innovante mais probablement plus rentable. Police District a duré ce que durent les étoiles. Les vieilles formules comme Julie Lescaut et Navarro ont la peau dure. La nouveauté est arrivée avec les nouveaux formats courts d'un gagne-fille ou de caméra café. Mais là aussi, la veine semble épuisée.
Retrouvez aux frontières des séries sur le web. www.afds.tv.